J'avais un truc pour toi, Rosemary, mais j'ai oublié. De toute façon, j'ai tout oublié aujourd'hui. C'était la journée. Ça m'énerve. Ouais, c'est vrai. Ça, j'y ai pensé. Et je sais que demain, en plus, ils vont me charrier. Parce que, je sais pas. Je crois que là-bas, il m'a dit 15 fois, il y a un truc pour Rosemary. Et puis Sam, il m'a dit 15 fois, il y a un truc pour Hervé. Et puis, ouais, pas de problème, j'assure. Mais voilà. Donc au petit déjeuner, quand j'aurai la tête dans le gaz, ils vont bien me charger. Bien me charrier demain matin. Alors. Donc on va commencer. Est-ce qu'il reste des flyers en plus? Non.
Non, c'est pas ce qu'il veut. Oui, c'est lui.
Moi,
c'est des prières, on va dire, sont
début d'enseignement.
C'est celui-là de Aurienne? Il y en a un.
Ouais, c'est ça.
Maintenant, on peut en avoir un petit peu, c'est pas grave.
Bon, après, ceux qui les oublient comme moi, hein, faut les laisser là, quoi.
Alors, on va commencer par. Je vais réciter le petit passage sur le karma, parce que c'est le thème de ce soir. Et puis ensuite, on va prendre quelques instants juste pour. Sans que je fasse de commentaires, on réfléchit un petit peu sur ce que ça nous interpelle, tout simplement. Et puis ensuite, on va réciter le refuge. Et puis ensuite, on fera un petit temps de méditation, comme d'habitude. Alors, le karma. Rien ni personne ne m'illusionne. Seules mes distorsions et leur causalité me voient la réalité du monde, des autres et de moi-même. Je suis seul responsable de mes perceptions et seul auteur de mes réactions. Je suis seul juge des antécédents et seul j'en assumerai les conséquences. Que je ne sois plus le pantin du karma souillé, mais que s'exauce le karma naturel de l'éveil, qui est sagesse, compassion et capacité. Donc voilà, on prend juste quelques instants pour s'approprier ce texte et puis voir qu'est-ce que ça peut, quel lien on peut faire avec notre quotidien, par exemple. Et on va maintenant réciter le refuge. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Vous pouvez entrer ? Ah ben non, il n'y a pas de problème. Et on va faire un petit temps de méditation. Voilà, donc comme d'habitude, pour ce temps de méditation, on commence par détendre le corps au maximum, avec la colonne vertébrale droite. Ça, c'est un des points qui est important. On va y avoir le dos le plus droit possible. Et dans cet exercice, donc, on garde les yeux ouverts. Idéalement, on garde les yeux ouverts pour rester en contact avec tout ce qui nous entoure, y compris par la vue. Le regard est posé devant soi, dans le prolongement de l'arête du nez, et aucune tension dans le regard. Le regard est naturel, sans fixité. Et on prend un moment pour se relaxer au maximum, au niveau du corps, au niveau des épaules, au niveau des bras, des muscles du visage, la mâchoire, les sourcils. Voilà, il s'agit vraiment de se relaxer profondément et de se sentir confortable dans notre assise. Et pendant ces quelques minutes, on va simplement méditer sur le moment présent, simplement se porter sur le moment présent. On laisse tomber tout ce qui est relatif à ce qui s'est passé, toutes les préoccupations liées au futur. Pour se mettre pendant quelques instants en vacances de toute préoccupation. On se porte sur ce qui est là, dans l'instant présent. On ne se met pas la pression, on s'autorise à avoir aucune exigence vis-à-vis de nous-mêmes, de comment ça devrait être. On ne recherche pas une expérience particulière, aucune attente. On est simplement, on se contente d'être. On se contente d'être simplement conscient. puis on en profite pour relâcher toutes les tensions de la journée. Alors on va continuer sur le karma. Est-ce que quelqu'un veut nous faire un petit récap de ce que j'ai dit la dernière fois? Est-ce que quelqu'un a déjà a gardé ne serait-ce qu'un petit truc anodin de la dernière fois, quelque chose qui lui a parlé ou qui l'a interpellé? Je vais donc faire le petit récap. Alors donc, on avait parlé dans Donc, pas dans l'ordre, hein, mais grosso modo, pour remettre le contexte, on avait parlé du fait que, déjà, j'avais parlé du karma, du mot karma, qui veut dire action, et puis j'avais un peu replacé ça dans le contexte de plusieurs traditions. Pourquoi karma, bah, finalement, ça a une signification qui diffère selon les traditions spirituelles. Et que bah, parfois les gens ils disent voilà, c'est mon karma ou c'est ton karma. Et derrière ça, parfois ça veut dire voilà, on peut rien y faire. Et ça donne une idée du karma comme quelque chose de très déterminé, quelque chose un peu une sorte de fatalité sur lequel on ne peut rien faire. Et par contre, dans le bouddhisme, ça ne veut pas dire ça, karma. Dans la notion de karma, donc voilà, on avait parlé du fait que voilà, j'avais mis l'accent sur le fait que karma, pour les bouddhistes, ça renvoie au contraire à une forme de responsabilité dans notre manière de vivre les choses, dans notre manière de réagir aux choses. Et quelque part, pour les bouddhistes, bah, le bonheur et le malheur, ça dépend avant tout de nous-mêmes. Et pas seulement des conditions extérieures. Ça dépend surtout de notre manière de réagir aux choses, notre lecture du monde, notre fonctionnement. Voilà, c'est ça qui induit beaucoup, finalement, le fait d'être heureux ou pas. Et donc, bah derrière karma, chez les bouddhistes, on ne peut pas dire que c'est 100% fatalité. Bah non, parce qu'au contraire, on peut faire quelque chose par rapport à ce qui nous arrive. On a une responsabilité, donc on peut justement, on est un processus, donc on peut influencer ce qu'on va devenir. Et c'est ça le grand message du Bouddha. Il dit, nous, si on veut savoir pourquoi on est comme ça, et ben en fait c'est lié à ce qu'on a fait. Et si on veut savoir ce qu'on va devenir, et ben en fait faut voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on a un pouvoir d'influence sur notre processus, mais en même temps. Dans la notion de karma, on ne peut pas dire que c'est 100% libre arbitre non plus, parce que on est conditionné par plein de choses. On est conditionné, on a des conditionnements très puissants. Et ces conditionnements, tant qu'on n'est pas éveillé, tant qu'on n'est pas, tant qu'on n'a pas une grande réalisation, bah, quelque part, on n'est pas forcément conscient. Il y a des conditionnements qui sont très grossiers, il y en a qui sont plus subtils, mais en même temps, bah, dans notre façon d'agir, dans notre façon de dire les choses, eh bien, elle est, voilà, il y a beaucoup de conditionnements qui viennent du passé, de l'éducation, de plein de choses. Donc, on ne peut pas dire qu'on est 100% libre, mais la pratique vise à justement nous libérer de tous les conditionnements. Et c'est ça, en fait, qu'on recherche. Derrière l'idée d'éveil, c'est je me libère de tous ces conditionnements pour être vraiment libre, parce que c'est ça qu'on souhaite, en fait. L'éveil, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, mais nous, ce qu'on veut, c'est être plus heureux, plus en paix, plus libre. C'est ça qu'on recherche. Derrière cette idée de bonheur, il y a l'idée de paix, de liberté. Voilà. Et donc, j'avais parlé de ça. J'avais parlé aussi. Alors, je crois que j'avais évoqué aussi le fait que dans les enseignements sur les karmas, on nous dit qu'il faut faire attention, faut pas négliger la moindre des petites actions, parce que une petite action peut entraîner de très gros résultats. J'avais parlé de ça, ça vous parle? Et donc du coup, bah, même que ce soit les actions positives ou négatives, voilà, on nous met en garde en lui disant faites attention, parce que les résultats peuvent être disproportionnés par rapport à la cause. Mais ça, quelque part, c'est aussi intéressant, parce que ça marche aussi dans les deux sens. On peut vraiment, comment dire, profiter de cette loi karmique en ne négligeant pas la moindre des petites actions vertueuses, parce qu'en fait, ces petites actions vertueuses qui paraissent rien peuvent avoir des résultats extrêmement puissants, à la fois pour nous et à la fois pour les autres. Et enfin, je crois que j'avais fini par parler des quatre moments de l'action, était un peu rentré un peu plus dans la notion de karma en parlant des quatre moments de l'action. Comment on définit l'action dans le dharma? Et ben, il y a quatre moments. Il y a le moment de l'intention, qui est le premier moment, voilà, la préméditation, l'intention. Il y a le moment de la mise en œuvre de l'action. Il y a le moment où l'action, elle aboutit ou pas. Et enfin, le fait qu'il y ait satisfaction ou pas. Et ça, c'est important de le retenir parce qu'en fait, quand on parle de résultats karma positif ou karma négatif, qu'est-ce qui prédomine? C'est le premier moment et c'est le quatrième moment. C'est-à-dire, en fait, c'est l'intention qui est vraiment ce qui va donner du poids à l'action, l'intention, et le fait qu'il y ait satisfaction ou pas. Et j'avais cité cet exemple, parce que c'est vrai que karma, ça veut dire action, mais en fait, vraiment, le point central, c'est l'intention. C'est-à-dire l'action qui commence dans l'esprit, l'activité mentale qui sous-tend l'action. C'est ça qui donne du poids. Et qui donne vraiment, on peut parler de résultats karma positif ou négatif, s'il n'y a pas l'intention derrière et qu'il n'y a pas satisfaction, l'action, elle est très négligeable. Et j'avais pris l'exemple de si on renverse un chat qui se jette sous nos roues alors qu'on est en voiture, bien sûr, ça porte à conséquence, en premier lieu pour le chat, il perd la vie, mais au niveau de notre continuum, c'est-à-dire karma, quand on parle de karma, c'est quel impact ça va avoir sur notre esprit en termes de positif ou négatif. Ça va être négligeable si, par exemple, il n'y a pas l'intention d'écraser le chat, et puis il n'y a pas de satisfaction, même il peut même y avoir un regret par rapport à ça. Et donc, du coup, au niveau des répercussions karmiques, c'est négligeable. Parce que c'est des causes et des conditions qui se mettent en place, mais quelque part, il n'y avait pas l'intention derrière. C'est un accident. Il y a quand même des conséquences. Mais c'est très négligeable en termes de karma. Surtout s'il y a regret. Parce que par exemple, un regret, ça peut amener l'idée de « bon, maintenant je vais faire super attention quand je conduis ». Donc quelque part, cette action va induire dans l'esprit l'idée d'une vigilance. Et donc, ça sera pas... ça va compenser l'acte. Voilà. Alors, je continue sur le karma et je vous avais dit, je m'appuie sur un enseignement de Lama Tsering, qui avait donné un enseignement à Luce, un enseignement oral, et puis je vous disais, moi je fais souvent ça en fait, quand j'ai des enseignements à donner, j'aime bien écouter des enseignements oraux, je les réécoute et puis je les répète. Voilà, je fais du copier-coller et j'assume. Et quelque part, en tant qu'enseignant bouddhiste, on ne peut pas me le reprocher parce que c'est ça notre job, de répéter ce qu'on a entendu. Et puis la Lama Tsering, elle est au courant, pas de problème. et je vais y aller, en fait j'aime bien y aller doucement parce que c'est un thème, je trouve, c'est très vaste le karma. Et ça peut être difficile à comprendre. Parce que c'est très profond. Et puis même parfois, je sors d'une rencontre comme ça, et puis j'ai l'impression que j'ai dit plein de trucs, et puis qu'on a tous le cerveau comme ça, moi le premier. Et finalement, je préfère prendre mon temps, et puis y aller petit à petit, surtout qu'il y a plusieurs séances sur le karma. Donc sans forcément me presser, mais quitte à développer des points, et puis même faire des petites, on développe. Et je préfère qu'on garde les questions pour la fin. Parce que c'est vrai que, surtout à Belfort, je tendais souvent la perche pour qu'on m'interrompt. Voilà, s'il y a quelque chose à clarifier, parce que ça me rassure en fait de savoir comment c'est perçu. Mais finalement, Lama Tsultrim et puis avec les responsables de Tsultrim, ils m'ont dit non, ça vaut mieux revenir à la tradition. Parce que dans la tradition, il y a un moment d'écoute et il y a un moment de réflexion. Il ne faut pas le switcher. Dans les enseignements traditionnels, on pose les questions à la fin. Parce que ça évite de poser des questions comme ça qui nous viennent. Mais finalement, on n'a pas pris le temps de vraiment écouter ou de vraiment avoir réfléchi sur le sens qui a été dit. Tout de suite, on posait une question. Et puis, ça venait aussi des gens dans les tchéliques, les participants qui disaient « Ouais, mais c'est un peu chiant parce que tu commences sur un truc, puis il y a quelqu'un qui interrompt, puis il y en a un autre, et puis il y a un autre. » Et puis finalement, on dérive sur plein de sujets. Donc voilà, je reviens à la méthode traditionnelle. Si vous avez des questions, surtout gardez-les. Et puis, on en discute à la fin. Alors donc, je vous partage une citation d'un maître qui s'appelle Tilopa, donc qui est un grand maître de la lignée Karmakagyu. Alors, Tilopa, donc, chez les bouddhistes, la lignée, c'est super important. Quand on reçoit un enseignement, quand on reçoit une pratique, pour nous, c'est super important de savoir d'où elle vient. Et surtout, est-ce qu'elle remonte au Bouddha Sakyamuni? Est-ce qu'on peut la considérer comme un enseignement du Bouddha? Et la seule façon de truc, c'est de savoir, si je la reçois par exemple de Tilopa ou de tel maître, eh ben, il est capable de me dire, je l'ai reçu d'un tel, qu'il a reçu d'un tel, et on remonte comme ça jusqu'au Bouddha Sakyamuni. Et ça donne des lignées de transmission. Et les bouddhistes sont très à cheval là-dessus. Chaque pratique, chaque instruction, etc. Ok, mais avant de, en fait, même de lui accorder du crédit, je veux juste savoir, est-ce que c'est un enseignement bouddhiste? Si c'est dit bouddhiste, c'est qu'on est capable de remonter la lignée jusqu'au Bouddha. Et Bodhicharya France, on se dit, on dit se rattacher à la lignée Karmakagyu, parce que principalement, on est rattaché à Rinpoche Rinpoche. Et Rinpoche Rinpoche, c'est entre autres un maître de la lignée Karmakagyu, donc qui s'appuie sur les enseignements des Karmapa, et donc on remonte comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sectaire, ça ne veut pas dire que, voilà, en tant que moi par exemple, je m'appuie sur toutes les lignées, et pas seulement les lignées tibétaines. C'est-à-dire, un enseignement, à partir du moment où c'est un enseignement qui vient du Bouddha, je prends. Voilà. Même si Bodhicharya dit Karmakagyu, on étudie plein d'autres textes, d'autres lignées, on invite d'autres enseignants d'autres lignées, aucun problème par rapport à ça. Mais voilà, principalement, voilà, on se dit Karmakagyu. Et Tilopa, c'est un maître de cette lignée-là, qui est ce qu'on appelle un Mahasiddha. Un Mahasiddha, c'est quelqu'un qui a une grande réalisation. Mahasiddha. Ça veut dire ma, ça veut dire grand, et puis sida, ça veut dire les grands accomplissements. Et donc il y a une période dans le bouddhisme, avant qu'il arrive, même avant qu'il arrive au Tibet, il y avait cette période où il y avait beaucoup de mahasiddha, c'est-à-dire des êtres qui avaient une grande réalisation et en fait qui se passaient complètement de conventions. D'ailleurs, dans leur réalisation, dans leur manifestation de leur éveil, ils n'adoptaient pas un style de vie particulier. Ils étaient libres, en fait, de toute convention, et même certains avaient des comportements qui choquaient, parce que très peu conventionnels. Et Tilopa, je pense qu'on le rencontrerait aujourd'hui, c'est pas quelqu'un d'un premier abord qu'on pourrait dire très fréquentable au sens... hirsute, comment dire, un yogi, quoi. Un yogi pour qui tout est bon pour l'éveil. Et pas forcément commode dans ses instructions, voire très provocant. Et donc, il a une instruction qu'il... Et donc, voilà, Tilopa, c'est un des pères de la lignée Kagyu. Et il a cette citation très célèbre, qui il dit un jour à son disciple Naropa, « Naropa, c'est pas les apparences qui te lient, c'est toi qui te lies aux apparences. » Naropa, c'est pas les apparences qui te lient, c'est toi qui te lies aux apparences. Vous pourrez en remplacer lié par attaché, si ça vous parle plus. Naropa, c'est pas les apparences qui t'attachent. C'est toi qui t'attaches aux apparences. Donc attaché au sens, voilà, hein, on parle bien de lié, ligoté. Donc tu n'es pas libre. Et elle est très profonde, cette instruction. D'abord, Naropa, il dit, il parle des apparences. De quoi il parle quand il dit les apparences? En fait, il parle de toute notre expérience. Et c'est intéressant parce qu'il utilise le mot « apparence ». Apparence, ça peut être tout ce qu'on perçoit avec nos sens. Toutes les formes qu'on perçoit, les sons qu'on entend, les saveurs, les odeurs, les expériences agréables, les expériences désagréables, eh ben, c'est intéressant parce que les bouddhistes, ils parlent, derrière le mot apparence, derrière le mot expérience, ils parlent d'apparence. Et c'est intéressant ce mot, apparence, parce que dans apparence, il y a l'idée de quelque chose de transitoire, quelque chose qui n'est pas solide, quelque chose qui apparaît et donc qui disparaît. Apparition, émergence. Et donc déjà, ça dit beaucoup, ça parle de l'expérience en termes d'apparence. Parce que tout ça, c'est très lié avec le fait que tout est transitoire, que tout est changeant, que tout se transforme. Même les expériences les plus intenses, même les expériences les plus denses, qu'elles soient pénibles ou extrêmement agréables, une fois qu'elles sont passées, il reste pas forcément de traces. Ça apparaît, ça disparaît. Ça nous paraît très vif quand on les vit, mais une fois que c'est passé, il ne reste plus rien. Alors, je ne perds pas de vue que ce dont je vais vous parler ce soir, j'aimerais finir sur les actes positifs et les actes négatifs. Les 10 actes vertueux et 10 actes non vertueux. Mais voilà, je voudrais au moins qu'on parle de ça, mais je prépare le terrain. Alors, donc les apparences sont, derrière le mot apparence, il y a l'idée de impermanent. C'est changeant. Et pourtant, malgré que ce soit changeant, on est sans arrêt en train de magouiller avec les apparences, avec ce qui nous arrive. On magouille soit parce qu'on voudrait que ça dure, en prétendant, voilà, ça vaut le coup d'être vécu. Ça, il faut que je m'y attache. Ça, j'aime. Ça, je veux que ça dure. Ça, je recherche. Alors que c'est transitoire. Donc, quelque part, toutes nos magouilles sont vouées à l'échec. Ça, on a déjà parlé. Hein. On le sait. On sait que les choses, elles changent. On sait que, finalement, il n'y a rien que... Enfin, on le sait. Plus ou moins. Mais en tout cas, dans les enseignements, on nous invite à prendre conscience que, quel que soit l'expérience, aussi agréable soit-elle, elle ne vaut pas le coup d'être recherchée. Absolument, parce qu'elle est transitoire. Donc, elle n'a pas le pouvoir de nous combler. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas une expérience agréable. Elle peut être extrêmement plaisante, extrêmement agréable. Mais d'un certain point de vue, donc du point de vue du Bouddha, quelles que soient les expériences, quelles que soient les apparences, elles sont insatisfaisantes. Insatisfaisantes, pas au sens où ce n'est pas plaisant, mais au sens où elles n'ont pas le pouvoir de nous satisfaire pleinement. Elles n'ont pas le pouvoir de nous combler. Elles n'ont pas le pouvoir de nous rendre heureux. Mais rendre heureux au sens, si, bien sûr, ça peut apporter une satisfaction à un moment donné, mais ce n'est pas ça le bonheur. Parce que ça, c'est transitoire, ça n'a pas le pouvoir de me rendre heureux, parce que de toute façon, ça va disparaître. C'est pas facile à vendre, ce truc-là. Bah, intellectuellement, on comprend, hein, pas de problème. Oui, bien sûr. Mais au niveau de l'expérience, quand il y a un truc qui nous arrive d'agréable, non mais c'est clair, tout notre esprit, voilà, ça c'est le pied, ça je veux. Et puis dès que l'expérience commence à disparaître, non, on a envie que ça dure. Oh, il y a une frustration. Et c'est ça qu'on appelle être lié à l'apparence. Quand on parle d'attachement, d'être lié, parce que dès l'instant où il y a ne serait-ce que 10%, 5%, 0,5% d'attachement, on n'est plus libre. On est dans un processus qui fait que c'est peut-être pas libre une fraction de seconde, hein, mais on n'est plus libre à ce moment-là de l'apparence. Et donc, il y a un petit dukkha qui naît dans l'esprit. Un petit, hein. D'ailleurs, même dans le plaisir, il y a un dukkha. Et ça aussi, c'est dur à vendre. Le Bouddha, il dit, les dukkhas, en fait, les bodhisattvas, autant les êtres ordinaires, c'est comme un cheveu dans la main, on sent rien. On ne le ressent pas, le dukkha, dans une expérience de plaisir. On ne ressent pas que dans cette manifestation, dans cette expérience, il y a du dukkha. Ben non, c'est plaisir, c'est satisfaisant, on ne le voit pas. Je parle quand il y a attachement, évidemment, parce que le plaisir en soi, aucun problème. c'est une expérience. Elle est pure. Par nature, elle n'a pas d'intention. Le plaisir, le déplaisir n'ont pas d'intention. Je vais y revenir, mais en tout cas, nous, quand ça nous fait plaisir, on ne voit pas le dukkha à ce moment-là. Le dukkha en formation. C'est comme un cheveu dans la main. Alors qu'il le compare aux êtres nobles, les aryas, les bodhisattvas, les êtres qui ont une réalisation, pour eux, le moindre dukkha, c'est comme un cheveu sur l'œil. C'est-à-dire, ils ont cette sensibilité qui fait que dès qu'il y a dukkha, ils le ressentent. Et donc, du coup, ils sont avertis. Pourquoi il y a dukkha? C'est parce qu'il y a attachement et aversion. Alors nous, dans notre expérience ordinaire, on commence par travailler sur les expériences désagréables. Parce que ça, pas de problème. On a du mal à les ignorer. On sait, hein, on est dukkha, on ressent bien. Mais en fait, on devrait aussi travailler, et précisément sur les expériences agréables, parce que d'une certaine manière, c'est plus facile. On ne prend pas de risques. Encore qu'il faut qu'on arrive en fait à aller au cœur de l'expérience. Ça demande quand même pas mal de pratique pour aller au cœur de l'expérience. Être confronté au plaisir, c'est un merveille, vraiment, être dans le plaisir, goûter le plaisir, et arriver à détecter à quel moment on est libre et à quel moment il y a un moment donné où on se laisse lier par l'apparence. Et ça, c'est pas évident. C'est même extrêmement subtil. Mais si on arrive à pratiquer comme ça, c'est super, parce que du coup, entre venir écouter un enseignement ou regarder une série sur Netflix, c'est d'une même saveur. Alors je m'explique. Hein. Quelqu'un qui arriverait, si on arrivait en fait à vraiment intégrer l'instruction de Tilopa, qui est une instruction très profonde en fait, parce que les instructions de Tilopa, c'est vraiment les instructions du Mahamudra, c'est les instructions en fait, la pratique la plus profonde qui soit, ça serait d'être capable de laisser venir et laisser partir. D'être capable de, à chaque expérience, à chaque instant de conscience, à chaque qu'elle soit agréable, désagréable, être capable de se détendre au sein de l'expérience. Simplement la regarder pour ce qu'elle est et la laisser venir et partir. Sans essayer de magouiller. Sans attente. Voilà. L'attente, l'attachement, c'est oh la fou. Il y a quelque chose là, je débande ça pour être heureux. Si je m'y accripe pas, je rate un truc. Là déjà, on n'est plus libre. Puis l'aversion, c'est oh là, faut surtout pas que ça soit là. Ça devrait pas être comme ça. Surtout, comment je fais pour me débarrasser de ça? Comment je fais pour ne pas rencontrer ça? Tous ces mouvements d'esprit, déjà, nous ligotent. Et si on était capable, en fait, de laisser les choses, en fait, telles qu'elles sont, simplement en laissant l'esprit dans son état naturel, c'est ça, les termes qu'on utilise, laisser l'esprit dans son état naturel. Alors, il n'y aurait pas de pratique plus profonde. Il n'y aurait pas de méthode plus efficace pour nous libérer. On n'aurait même pas besoin d'une discipline autre. Il n'y aurait pas besoin en fait de comment dire, d'avoir une certaine discipline, une certaine hygiène de vie, une certaine pratique. Il n'y aurait pas besoin d'étudier des tonnes d'enseignements sur le bouddhisme. Et comme je vous disais, en fait, entre ça et puis regarder une série sur Netflix, ça sera d'une même saveur. Parce que la pratique serait là. C'est le cœur de la pratique. Je ne fais pas de provocation hein, quand je dis ça. Et je pense qu'un certain... si on comprend cette instruction, ne serait-ce que comment on est inspiré, puis parfois, en fait, on peut la mettre en application, ça peut être intéressant, en fait, de se mettre devant un bon feuilleton. Mais vraiment, hein, pour se faire plaisir. Hein. L'idée, c'est pas... Voilà... Au lieu de pratiquer formellement, si voilà, on a une pratique formelle, eh bien, à un moment donné, on va l'expérimenter. D'ailleurs, c'est le but de toutes ces pratiques formelles, c'est qu'à un moment donné, elles dépassent le cadre du formel pour qu'on s'expérimente dans la vie quotidienne, parce que c'est dans la vie quotidienne qu'est la vraie pratique. Dans le petit laboratoire sur son coussin, ça, c'est quelque chose qui est très important. Si on a l'occasion l'opportunité de mettre en place des moments dans notre quotidien, on peut vraiment méditer sur le coussin, voilà, sans tricher, simplement s'asseoir et puis regarder son esprit, c'est extrêmement précieux, mais on va bien voir que ça ne suffit pas. Si on n'emmène pas cette méditation dans le quotidien, elle sera toujours limitée à 10 minutes sur le coussin par jour, ça ne suffit pas à transformer notre esprit. Et puis, avec une certaine familiarité, avec par exemple le fait d'avoir un esprit stable, un esprit clair, eh bien, on s'entraîne à utiliser cette stabilité quand on discute, ou quand on fait les courses, ou quand on fait, quand on conduit, de voir que ce n'est pas incompatible, la méditation en action et la méditation sur le coussin. Alors, il ne faut pas tricher, hein, parce qu'il y en a qui, justement, ils aiment bien utiliser cet argument pour dire « Non, mais moi, la méditation sur le coussin, moi, c'est méditation en action. » Mais souvent, on fait une pierre deux coups et et on triche. Mais si je parle à des pratiquants sincères qui ont envie d'expérimenter en fait que c'est pas les apparences qui nous lient, c'est nous qui nous lions aux apparences. Si on est vraiment clair avec ça, on peut l'expérimenter même sur une série Netflix. Je sais pas pourquoi je parle que de Netflix. Il y a pas que Netflix, il y a Amazon Prime. Il y a Disney+, et puis il y a le cinéma, enfin voilà. Mais bref, l'idée, c'est que parfois, on pourrait avoir envie de se mettre devant un film, tout simplement, pour se relaxer. Et ce n'est pas incompatible avec la pratique. Si on est vraiment sincère, ça peut même être très intéressant d'observer ce qui se passe dans notre esprit et arriver à regarder le film, tout en étant vigilant à ne pas s'attacher, à ne pas être pris, à ne pas être, à ne pas être distrait. Ouais, je crois que c'est le terme est plus prudent. À ne pas être distrait. Je peux être conscient du film, regarder le film, comprendre parfaitement ce qui se passe, mais en même temps, je ne suis pas distrait. C'est étonnant parce que d'habitude, quand on regarde un film, pourquoi on regarde un film? C'est pour s'évader. Justement, c'est pour se distraire. Mais on peut faire encore mieux. On peut se détendre dans le film. Il y a vraiment profiter, faire un break, et en même temps, ne pas être distrait. Et si on arrive à ça, quelque part, on a le beurre et l'argent du beurre. Parce que dans la distraction, on est ligoté par les apparences. Donc il y a une partie de nous qui n'est pas détendue, qui est dans la bokeh. J'essaie de trouver un exemple un peu concret. Ça peut se traduire par on lance un film et puis ça nous plaît moyen. Voilà, c'est pas ce qu'on attend. Enfin voilà, on lance le truc parce que revenons à Netflix. Parce que moi je regarde Netflix. Parfois quand j'ai envie de me faire un film sur Netflix, alors déjà je passe un temps fou sur le catalogue, j'arrive pas à me décider, mais ça c'est un autre problème. Mais admettons je lance un truc, parfois c'est je le regarde quoi, mais c'est pas, et je vois bien que dans mon esprit, non, justement je ne vois pas ça. La plupart du temps, si je fais pas cet effort de considérer ça comme une intégration à la pratique, je ne vais pas me rendre compte qu'en fait ça ne me plaît pas, mais en même temps je continue à regarder hein, dans l'espérance qu'il va se passer quelque chose. Et là il y a une attente, là il y a quelque chose où en fait c'est censé être un moment qui me détend, et ça l'est, hein, voilà. Mais là on rentre dans le subtil, hein, vraiment on observe vraiment ce qui se passe dans le subtil, de voir que si je recherche vraiment à être détendu, libre, etc., dans ce fonctionnement, si je ne l'observe pas, je suis dans l'attente de quelque chose. L'attente que l'esprit m'apporte quelque chose d'excitant, de palpitant, etc. Et puis, ça n'y répond pas. Et pourtant, je reste devant. Et au bout du compte, ça laisse une sorte de, peut-être, frustration. Mais quand je dis frustration, même petite, même légère, mais ça laisse une sorte d'insatisfaction. Là, c'est le signe que je me laisse lier par les apparences. En fait, j'attends des apparences quelque chose. Je ne suis plus dans la pratique. On pourrait faire la même chose avec un navet. Avec un navet, j'aime pas trop dire ça, mais avec un film qui ne nous plaît pas. Et pourtant, être vraiment dans la pratique. Et à ce moment-là, il n'y aura pas cette chose-là. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Voilà, c'est juste un exemple de... À un moment donné, la pratique, on se l'approprie. C'est-à-dire, si on voit où est-ce qu'on nous emmène, bien sûr que la pratique ne se limite pas au coussin. Le coussin est très important. Parce qu'on ne triche pas sur le coussin. On ne peut pas faire pire de coups. C'est juste un moment... dans le sens où on ne peut pas, quand on médite sur le coussin, on vient contrecarrer l'ego. Parce que du point de vue de l'ego, chaque activité, ça doit être rentable. Chaque moment, eh ben, en fait, doit profiter à quelque chose. On désamorce ce mécanisme sur le coussin parce que ça ne sert à rien. Vous voyez ? Quand on s'assoit sur ça, ça ne sert à rien. C'est la pure perte de temps. Du point de vue de l'ego, hein. Du point de vue du système égocentrique, qui est un peu dans cette logique de le temps c'est de l'argent, le temps il faut que, voilà, chaque minute de la journée, qu'est-ce que je vais faire? Ah tiens, j'ai un moment de libre, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais en profiter? Comment je vais l'utiliser? Comment je vais l'exploiter? La méditation, c'est contre-productif de ce point de vue-là. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas tricher. Et c'est donc pour ça que c'est une méthode qui est extraordinaire et qui est très précieuse. Parce que ça désamorce justement toutes ces fabrications. Souvent, il y a des gens qui nous... Vous voyez, au centre, il y a une semaine, on a organisé 2 semaines de retraite. Et il y a des gens qui se demandent parfois à quoi ça sert. De faire des retraites. C'est à quoi bon en fait se tirer dans son coin, en quoi c'est utile aux êtres d'aller dans voilà de son côté. Je vois pas le rapport même avec les enseignements du Bouddha qui prône comment être utile aux autres. Je vois. Et ces ermites qui vivent dans des grottes, n'en parlons pas quoi. À quoi ça sert? Mais en fait, c'est une impact beaucoup plus directe sur le monde qu'on pourrait le croire, la retraite. Alors, je parle de retraite, parce qu'il y a plusieurs retraites. Là, déjà, je parle de retraite spirituelle. et retraite spirituelle bouddhiste. Parce que, là encore, qu'est-ce qu'on pratique dans les retraites spirituelles bouddhistes? On peut mettre plein de choses derrière retraite spirituelle. Retraite. Mais chez les bouddhistes, faire une retraite, c'est extrêmement précieux. Tous les lamas, tous les instructeurs nous invitent, en fait, si on a l'occasion, à faire de temps en temps des retraites. Faire cette expérience. Pourquoi? Parce que c'est très, très pénible. Non, je plaisante. C'est vrai qu'on a l'image de... Attendez, une semaine en silence, à rien faire, mais jamais de la vie. Alors, en fait, c'est beaucoup moins... comment dire? On se fait beaucoup d'idées hein, sur ce qu'est une retraite. C'est vrai qu'il y a des moments qui ne sont pas faciles dans une retraite. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Quand on parle de retraite bouddhiste, on parle de se mettre en retrait de l'activité mondaine. Ça, c'est déjà un premier point. On se met en retraite pour pouvoir observer notre esprit. Et c'est... en fait, on n'a pas beaucoup l'occasion vraiment d'observer profondément notre esprit parce qu'on est accaparé dans notre quotidien par plein d'activités, des choses à faire, etc. Donc, bien sûr, de temps en temps, petite méditation sous le coussin, etc. Mais en même temps, pas facile vraiment de plonger dans cette observation de l'esprit. Et puis en plus, voilà, à la fin de la journée, on a envie de décompresser aussi. On a envie de compenser. Et observer son esprit, c'est pas facile quand on a des journées chargées. Et dans l'idée de la retraite, en fait, il y a une instruction qu'il faut retenir, c'est apprendre à détendre l'esprit. C'est la seule, s'il y avait un truc, un point clé à retenir, c'est se détendre. Mais on ne peut pas se détendre à travers le divertissement. Parce que la règle, quand on fait des retraites collectives comme ça, déjà on est tous en silence, voilà, pendant une semaine, on est en silence. Et puis on alterne avec des temps de pratique, des temps de pause, de repos, etc. C'est pas forcément intense, hein. Faut pas s'imaginer que quand on dit voilà, les retraites, ça commence à 5h et ça finit à 22h, c'est pas 5h sur le coussin jusqu'à 22h, c'est impossible. Il y a des moments de pratique, il y a des moments d'études, il y a des moments de pause, c'est en silence, il y a des moments où on mange, il y a des moments où on se lave. Donc en fait, c'est assez souple, hein. C'est pas si intense que ça au niveau des... Alors par rapport à ce qu'on fait d'habitude, oui, c'est intense. Mais en termes de pratique, voilà, c'est des sessions d'une heure et demie en général. Voilà, une heure et demie, et puis ensuite une pause, et puis ensuite, voilà, peut-être un temps d'étude, et puis ensuite on remet une heure et demie. Et même pendant cette heure et demie, on n'est pas comme ça, figé sur un... Inspire, expire, inspire. Plus que 45 minutes, inspire, expire. Non, en fait, on fait chiner. Pour ceux, par exemple, qui font une pratique de chiner, ils font chiner. Mais toujours avec ce point clé, le but, c'est que de garder l'esprit détendu. En même temps, il ne faut pas qu'il soit trop relâché. C'est-à-dire, si je me mets à pioncer, ben, je passe à côté de la retraite. Je n'observe pas l'esprit. Mais en même temps, si l'esprit est trop tendu, et si voilà, ça devient une tension, une rigidité, bon, allez, il faut que je tienne, mais on pète les plombs. Et du coup, on passe à côté de la retraite. La retraite peut devenir très pénible. Donc, comment je fais, en fait, pour observer cet esprit? Il n'y a qu'une seule chaîne, hein, l'esprit. Et il ne faut pas croire, en fait, que ce n'est pas parce qu'on ne fait rien que, comment dire, on va être tranquille en retraite. Rien ne dit que... ça va se passer tranquille. On n'en sait rien, en fait. On nous dit, avant les retraites, n'ayez aucune attente. Peut-être que ça va être très calme plat. Peut-être qu'il va y avoir du mouvement. Mais en tout cas, qu'on soit méditant depuis, je ne sais pas, un an, 10 ans, 20 ans, l'esprit il reste le même pour tout le monde, c'est-à-dire fluctuant. Un méditant, il le sait. Quelqu'un qui est confirmé, la seule différence avec un débutant, c'est que il sait que l'esprit est fluctuant. Donc il sait que si aujourd'hui c'est calme, rien ne dit que le lendemain, eh ben, il n'y a pas une pensée qui va faire que on va se mettre à cogiter. On ne sait pas pourquoi. À ce moment-là, on s'assoit et puis c'est ça qui émerge à l'esprit. On se rejoue un film du passé où il y a quelque chose qui, voilà, peut-être l'attitude d'un participant qui fait émerger plein de trucs et puis on se met à... et ça, voilà, même au bout de 20 ans de pratique, ça ne change pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va émerger dans l'esprit à ce moment-là. Et peut-être que la session de 9h à 11h, eh ben, ça sera... Et le but, ce n'est pas d'essayer de faire en sorte que l'esprit... c'est pas le but de faire la guerre à l'esprit, qu'il soit autre chose. Mais le but, c'est de se détendre par rapport à ça. C'est d'observer l'esprit. Voilà, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. En retraite, on s'entraîne à observer l'esprit. Qu'il soit calme, qu'il soit agité. Que le film qui se projette soit plaisant ou déplaisant. On s'entraîne simplement à observer l'esprit et on s'autorise à observer ça et se détendre. Quoi qu'il arrive. Et c'est un exercice qui est extrêmement puissant. C'est un exercice qui peut nous donner beaucoup de confiance en nous. Parce que d'ordinaire, en fait... on ne prend pas le temps d'observer cet esprit. Et puis quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, eh ben on va chercher à s'évader. On fait beaucoup ça. On peut s'évader avec n'importe quoi. On peut même s'évader avec le travail. On peut s'évader avec le sport. On peut s'évader en allant à boire un verre ou aller regarder un film ou chocolat. Mais en retraite, la règle du jeu, c'est je dois me détendre, mais sans échappatoire. Il n'y a que par moi que ça passe. Et si on y arrive, eh ben, ça va nous permettre de voir qu'on a cette capacité, en fait. De régler le problème par l'esprit lui-même, et pas à travers autre chose. Et notamment, ça va aussi marcher au niveau des facteurs perturbateurs. Parce que d'habitude, on rend responsable. Voilà, d'ordinaire, quand on a des facteurs perturbateurs, on va compenser, ou alors on va aller à fond dans les facteurs perturbateurs, que ce soit la colère, que ce soit l'avidité, que ce soit... Et finalement, les facteurs perturbateurs, dans le Dharma, nous dit, en fait, c'est à l'origine de tous les problèmes du monde. C'est ça qui est à l'origine des guerres. C'est ça qui est à l'origine de la pauvreté, de la famine, des systèmes totalitaires. Derrière, on peut toujours trouver, en fait, toujours ces facteurs perturbateurs. L'avidité, la soif de pouvoir, la haine, la colère, la peur. Dans le Dharma, en fait, on dit tous ces problèmes, c'est juste un prolongement de ce qui se passe dans notre esprit. La guerre est née d'abord dans notre esprit. Le fait de, justement, quand il y a des facteurs perturbateurs, bah de répondre par l'agression. Quand il y a de la peur, quand il y a de l'attachement, de répondre par l'avidité, par la jalousie, par l'orgueil. Et en retraite, eh ben, on va être confronté à ça. Vraiment confronté. On l'est toujours, hein, dans la vie de tous les jours. Mais en retraite, bah, quelque part, on est au pied du mur. C'est-à-dire, si le thème d'aujourd'hui, c'est la colère, voilà, la chaîne d'aujourd'hui, c'est la colère, comment, bah, en fait, j'apprends à me détendre là-dedans, sans laisser exploser ma colère, sans non plus essayer de l'étouffer, c'est-à-dire en « allez, je vais compenser par quelque chose, par le chocolat ou je ne sais pas quoi ». Donc j'apprends à me détendre par rapport à ça. Observer l'esprit tel qu'il est. Ben voilà, c'est ça qui se joue aujourd'hui, scénario colère. Ou alors c'est ça qui se joue aujourd'hui, scénario ennui. Et j'apprends à être OK avec ça. Et si on y arrive, ben en fait, on voit, on acquiert beaucoup de confiance par rapport à son esprit. Beaucoup moins de peur par rapport à ce qui se passe, par rapport aux pensées, par rapport au fait. Parce qu'on sait qu'au fond, en fait, on peut se détendre par rapport à ça. Alors ça ne veut pas dire que les retraites, c'est de tout repos, parce que justement, on ne sait pas. Mais là, je voulais en venir, c'est que, d'une certaine manière, ça a un impact beaucoup plus direct sur le monde qu'on pourrait croire, parce qu'on voit des gens voilà, qui, bah, finalement, ils se retirent et ils ne font rien. Mais en même temps, on travaille sur quelque chose, on travaille sur la racine du problème, les facteurs perturbateurs. Comment apprendre à gérer ces facteurs perturbateurs? Comment on voit qu'en fait, on peut en fait se libérer de ça. Et que, au fond, c'est de nous que ça vient et c'est, ouais, c'est de nous que ça dépend, en fait. Et que si, au lieu de se laisser mener par les facteurs perturbateurs, ben on... parce que quand je parle de karma, je parle de ça. Soit on a un karma qui est une action qui est sous l'emprise des facteurs perturbateurs, et c'est ça qu'en fait on diffuse dans le monde, à travers nos gestes, à travers nos paroles, etc. Soit on choisit ben justement de se libérer de ça, et c'est ça qu'on diffuse dans le monde. Le prolongement, de toute façon, se fera. Et si on est libre des facteurs perturbateurs, bah, ça aura une implication, ça aura un effet sur le monde, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Et bah, soit on est mené par les facteurs perturbateurs, soit on est mené par la lucidité. Et de ce point de vue-là, karmiquement, ça a un impact aussi direct dans le monde qu'une action sociale. Enfin, c'est pas comparable. Mais je veux dire, ça n'est ni plus ni moins un impact. Parce que je prends l'exemple inverse. On peut être engagé dans une action sociale, mais si on n'est pas libre de ces facteurs perturbateurs, de toute façon, quelle que soit l'action sociale, qu'est-ce qu'on propage? Les facteurs perturbateurs. Ça, du point de vue du Dharma, c'est assez clair. Si dans notre action sociale, on n'est pas capable de gérer nos facteurs perturbateurs, nos émotions perturbatrices, il peut y avoir une bonne intention derrière, mais quelque part, elle sera empreinte d'aversion, de colère, de discrimination, etc. Et quelque part, bah, en fait, ça éclabousse tout le monde. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait, au lieu de faire des actions sociales, il faudrait plutôt faire des retraites. Mais en tout cas, c'est intéressant. Si vraiment on a cette aspiration, justement, précisément, si on a envie de s'impliquer dans n'importe quoi qui peut être utile aux autres, que ce soit à travers notre procession, notre profession, nos actions sociales, etc., c'est évident qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le fait de se remettre en question, de remettre en question nos fonctionnements erronés, nos facteurs perturbateurs, et apprendre à travailler dessus, c'est clair. Alors, les instructions de Tilopa Naropa sont très profondes, et puis si on était capable effectivement de laisser l'esprit dans son état naturel sans être lié aux apparences, il y aurait même pas besoin de venir ici parler du karma. Mais en tout cas, moi j'en suis pas là, et on va parler donc de la vue des êtres ordinaires. Parce que c'est à cette vue-là que s'adressent les enseignements du karma. La vue des êtres ordinaires, c'est-à-dire qui ont un état d'esprit samsarique. Pour la plupart d'entre nous, ça se traduit en fait par déjà la vue dualiste. Le fait de la vue subjective. Il y a moi et puis il y a les autres. Si on a cette vue, c'est qu'on a une vue ordinaire. Même si ce n'est pas 100% dualiste, si c'est 50% dualiste, voire 40, 20%, les enseignements du karma, c'est précieux.
C'est
précieux. Parce qu'on est soumis au karma, dans cette vue-là. Si, par exemple, on a une notion du temps qui est très forte pour les êtres ordinaires, le temps a quelque chose de très concret. On accorde beaucoup de réalité à la notion de temps, de durée, etc. Ça prouve qu'on est, on a une vue, justement, on est dans un état d'esprit qui est samsarique. Quand on parle d'état d'esprit samsarique, ça parle d'un état d'esprit qui est confus, c'est-à-dire qui ne voit pas les choses 100% clairement. On les voit de manière floue ou distordue. On a une perception erronée des phénomènes, à des degrés différents. Mais donc, du coup, pour nous, la dualité est quelque chose de très, très, très solide. Et même parfois, la plupart d'entre nous, on ne connaît pas d'autres modes de fonctionnement. Donc, on fonctionne en mode dual, et puis il y a celui-là qui est valable, parce que de toute façon, on ne voit pas d'autres fonctionnements. Dans cette vue, on dit des choses du genre... avoir beaucoup d'argent, c'est un karma positif. Alors, c'est pas faux, hein. C'est pas tout à fait faux, hein, de dire ça. Il y a du juste là-dedans. Avoir beaucoup d'argent, c'est un karma très positif. Oui, pour les êtres ordinaires, chez les humains, hein, pour des êtres humains, avoir beaucoup d'argent, c'est un karma positif. Mais en fait, c'est quelque chose qui est très... c'est une vue, c'est pas faux, mais c'est une vue qui est très grossière. C'est une compréhension qui est très grossière du karma. Mais parce qu'on a cette vue-là, les enseignements du karma, c'est très précieux. Et chez les Asiatiques, par exemple, le truc, c'est d'avoir une longue vie. Chez les Asiatiques, ça, c'est un truc, c'est vraiment... avoir une longue vie, c'est vraiment le signe d'un karma très positif. Mais en fait, ça reste toujours très subjectif, ça. Avoir une longue vie, est-ce que c'est un karma positif? Ça dépend, en fait. Ça dépend dans quelles conditions. Avoir beaucoup d'argent, ça dépend ce qu'on en fait. Parce que du point de vue du dharma, la compréhension du karma positif, c'est... ça n'est positif que si ça nous rapproche de l'éveil. Si le fait d'avoir beaucoup d'argent nous rend plus avide, est-ce qu'on peut parler vraiment d'un karma positif? Si en fait, comment dire, ça nous rend indifférents, si ça nous rend avides, si ça nous rend, ça ne fait que générer des facteurs perturbateurs, c'est pas tant un karma positif. Le Bouddha, d'ailleurs, il le dit, hein, il dit soyons libres de la richesse parce que la richesse, l'argent ne fait pas le bonheur, pour schématiser quoi. Mais il ne dit pas non plus que le fait d'être pauvre, ça serait quelque chose de positif. Tout dépend en fait, tout dépend de ce qu'on en fait. Et du point de vue du dharma, en fait, on parle de karma positif, on parle d'accumulation de mérite. C'est à condition que ça nous rapproche de l'éveil. Tout ce qui nous rapproche de l'éveil, à ce moment-là, est considéré comme un karma positif. Donc en tout cas, si on est dans cette vue-là, c'est qu'on est soumis au karma. On est soumis au karma. Et donc, du coup, les enseignements du karma, c'est très important. C'est quelque chose de très précieux. Mais comme c'est un sujet qui est très vaste et très profond, l'idée, c'est d'arriver parmi ce qu'on va recevoir comme enseignement, qu'est-ce qu'on peut comprendre de manière efficace. Et puis ensuite, on va cheminer tranquillement avec cette idée-là. Mais on va voir que la notion de karma, c'est quelque chose qui va... Karma positif, karma négatif, c'est pas quelque chose de figé. Selon notre maturité spirituelle, on va le comprendre de plus en plus profondément. Et donc, ça va évoluer. Et même l'éthique bouddhiste, c'est pas quelque chose de figé. Elle n'est pas du tout dogmatique. Bien sûr, on va parler, là je vais vous parler des 10 actes négatifs, des 10 actes positifs, mais je prépare le terrain justement pour qu'on comprenne que ça, c'est une compréhension qui est très fiable et en même temps qui va être amenée à évoluer. Donc on ne peut pas prendre comme ça de manière dogmatique sans réfléchir. On ne peut pas prendre tous les enseignements du Bouddha. Hein. On ne peut pas les prendre comme ça, texto, sans se poser de questions, sans réfléchir. La voie bouddhiste, ça demande à réfléchir. La voie bouddhiste, ça demande à chacun, en fait, comment je comprends cet enseignement, comment je peux l'intégrer à mon quotidien, et ça va faire émerger des questions. On va voir qu'on ne peut pas le prendre pour argent comptant, il faut confronter, et puis parfois il y a des doutes. Et donc, du coup, on est amené à apporter des éclaircissements. Je vous prends un exemple. Parce que, grosso modo, quand on va parler des actes positifs et négatifs, finalement, ça revient un petit peu à... pour faire... Justement, pour avoir une compréhension très sûre, très fiable, très prudente, le Bouddha, quelque part, il nous invite à comprendre que tout ce qu'on n'aime pas pour nous, on ne va pas l'infliger aux autres. C'est un peu comme quand le Christ il dit « ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». C'est une éthique très fiable. Il y a quelque chose en fait, de très facile à comprendre. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Voilà, ce que je répugne, je vais pas l'infliger aux autres. Facile à comprendre. Et en même temps, c'est grossier. Alors pas, comment dire. C'est une compréhension qui est basique, pas grossière. On va dire basique. Basique parce que le référentiel c'est moi. Donc ça reste assez limité. Voilà, ce que j'aime pas, je vais pas le faire aux autres. Mais en même temps, ça veut pas dire... Voilà, on va voir que on va être amené à aller plus loin. Je prends un autre exemple un peu bizarre. Imaginons qu'on applique ça. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et puis qu'un jour, on nous invite sur Mars. Les Martiens nous invitent. Ou je sais pas. Imaginons, voilà, c'est rien, on va habiter sur Mars. Avec les Martiens, et les Martiens, en fait, ils ont pour coutume vraiment le top de l'intimité, de la proximité, c'est voilà, quand on veut se témoigner vraiment de la chaleur martienne, pas de la chaleur martienne, c'est de se foutre des grandes baffes. Je vous pose la question. Mais j'ai pas de réponse. Hein. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Si, voilà, ça fait déjà 10 ans qu'on habite sur Mars, on sait. Hein, nous, on n'aime pas se prendre des baffes, mais on voit bien que eux, ça leur fait plaisir. Enfin, on voit bien que eux, c'est vraiment. Allez, voilà. On voit bien que notre éthique, elle devient. Elle est plus aussi. Comment dire? Figée. Fais pas ce que tu veux pas. Oui, mais si ça leur fait plaisir. C'est juste, voilà, je lance une question, c'est juste pour voir que bah, dans le dharma, on va être confronté à ça. Et c'est le but, hein. C'est le but. On va se poser des questions sur comment mieux agir, comment ne pas nuire aux autres, mais ensuite, ça va aller plus loin. On ne va pas se contenter simplement de nuire aux autres, parce que notre aspiration dans le dharma, c'est « je souhaite réaliser l'éveil pour libérer les autres de la souffrance ». Donc, on va plus loin que de ne pas nuire aux autres. Notre aspiration, c'est d'être utile aux autres. Et c'est même vraiment le cœur de la pratique. Comment ce corps, comment cette parole, comment cet esprit peuvent soulager, participer de soulager la souffrance du monde. Participer d'apporter quelque chose, plus de bonheur, plus de joie, plus de paix, plus de soulagement, etc. Donc bien sûr, non seulement on ne va pas nuire aux autres, mais en fait, ensuite on va réfléchir qu'est-ce qui est le mieux ? Comment je peux faire au mieux ? Qu'est-ce que je peux apporter de plus ? Qu'est-ce que je peux faire de plus utile ? Et donc, du coup, bah, l'idée de ne pas nuire aux autres, ça suffit pas. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas que tu te fasses. Bah, on comprend un niveau, c'est fiable, mais en même temps, on voit bien qu'à un moment donné, ça va bouger. Et on va se poser des questions. Et puis même parfois, hein, on peut se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui est vraiment utile aux autres ? Jusqu'à la réalisation. Où la réalisation, c'est une action qui est, quand on parle de l'activité d'un Bouddha, c'est une activité qui ne passe plus par le mental. C'est une activité qui est spontanée. Elle est même sans intention. C'est difficile à concevoir. Mais en fait, c'est là qu'on parle de libération. Parce que nous, bah, on est encore dans notre chemin, on pèse le pour, le contre, et ça fait partie du chemin. Mais la libération, en fait, c'est le fruit. C'est-à-dire que notre activité devient bienfaisante, sans intention, sans activité, justement sans réflexion. Elle est spontanée et elle est juste. Parce que précisément, il n'y a pas de truchement, il n'y a pas de fabrication. Très difficile à concevoir, hein, je suis bien d'accord, inconcevable d'ailleurs, inconcevable. Mais c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on nous emmène. Pourquoi on reçoit ces enseignements? C'est quoi la libération? On nous parle de ça. L'activité d'un Bouddha est sans intention. Et elle est parfaite. Bienfaisante. Mais n'empêche que bah, nous, on va d'abord parler de l'éthique. Et puis, hein. Et donc, du coup, bah, je rentre dans le vif du sujet. Donc, il y a 10 actes négatifs. Négatif, ça veut dire non vertueux. Non vertueux, pas parce qu'ils se sont mal en soi, mais parce qu'ils nous éloignent de l'éveil. On tourne le dos à l'éveil quand on agit de cette manière-là. Donc c'est d'abord un négatif pour nous-mêmes, non vertueux pour nous-mêmes. Alors le premier, donc il y en a 3 négatifs du corps, 4 négatifs de la parole et 3 négatifs de l'esprit. Parce que le corps, l'esprit, la parole, ça participe de l'action, du karma. Alors, le premier, c'est ne pas tuer. Non, ça, c'est le vœu. L'acte négatif, c'est tuer. Tuer, voilà, c'est le premier. Le deuxième, c'est ne pas prendre, ne pas voler. Non, c'est voler. C'est-à-dire prendre ce qui ne nous a pas été donné. Déjà, c'est quand on voit dans les textes, c'est extrêmement détaillé. Quand on dit ne pas voler, donc on ne pas voler sciemment, pas prendre ce qui nous a été volé, voler sciemment, c'est ce qu'on fait, on sait ce que ça impacte, on met l'action en œuvre et elle aboutit et il y a une satisfaction. Là, le karma est voilà, complet. Ensuite, la conduite sexuelle. Voilà, tout, comportement sexuel qui pourrait être source de souffrance pour l'autre, et ça inclut l'adultère, considéré comme un acte négatif, c'est-à-dire s'unir à quelqu'un qui est déjà engagé, voilà, ou s'unir à quelqu'un qui a pris des vœux monastiques de chasteté, etc. Ensuite, donc, il y a quatre actes négatifs de la parole. Il y a le mensonge, tromper quelqu'un, dans le but de tromper quelqu'un, les propos malveillants, la calomnie, c'est-à-dire colporter des rumeurs sur quelqu'un, dans le but de nuire à sa réputation. Donc, même si la rumeur peut être fondée, mais vraiment dans le but de nuire à sa réputation. Voilà, la calomnie, on est un peu sur le même registre hein, que la malveillance, mais voilà. Et puis enfin, le bavardage futile. Alors le bavardage futile, c'est le fait de parler sans considération sur ce que ça fait naître dans l'esprit de l'autre. C'est important l'intention qui est derrière parce que je vais y revenir. Mais voilà, parler sans considération. On ne sait pas ce que ça fait naître, mais on parle pour parler, puis c'est machinal. Ensuite, il y a les trois actes négatifs de l'esprit. La malveillance, c'est-à-dire ruminer des pensées malveillantes envers quelqu'un. Ruminer des pensées de convoitise. Voilà. On pourrait dire l'envie, la jalousie, voilà, vouloir obtenir ce que l'autre a, etc. Et enfin, les vues erronées. Donc, les vues erronées, c'est-à-dire le fait de croire... Ah, c'est difficile à parler des vues erronées. Alors, on parle de l'éternalisme et du nihilisme. L'éternalisme, c'est le fait de croire que les choses existent réellement par elles-mêmes, qu'elles sont permanentes. Ça, c'est les vues éternalisme. On pourrait comparer au matérialisme. Mais au sens pur et dur, quoi. Et puis, les vues nihilistes, c'est aussi un extrême des vues erronées. C'est au contraire penser que rien n'existe. Donc, rien n'a vraiment d'importance. Donc, tout ce que je fais, tout ce que je dis, ne prête pas à conséquence. On nie la loi du karma, tout simplement. Et ça, c'est des vues qui sont, quelque part, erronées. Qui sont erronées. Et qui entraîne forcément donc du coup des actes négatifs parce que sous l'emprise d'une confusion. Voilà. Et donc voilà, ça c'est les. Donc l'idée c'est comment on peut s'approprier cette éthique. Enfin, voilà, comment on peut s'approprier cet enseignement et le mettre en application dans sa vie quotidienne, et comment on fait pour ne pas être bloqué par ça, parce que parfois on va être confronté justement à des cas de conscience. Parce que d'un côté on nous dit ce qui est important, le cœur, c'est la compassion, c'est l'altruisme. Comment faire de cette vie quelque chose qui ait du sens? Comment être utile aux autres. Donc on parle des 10 actes positifs. Là où il y a ne pas tuer, on parle de protéger la vie. Mais il y a une grosse différence entre ne pas tuer et protéger la vie. C'est pas pareil. Très ne pas mentir, mais au contraire, parler à bon escient, parler sincèrement, dire la vérité. Voilà, bavardage futile, parler à bon escient. Donc il y a vraiment cette démarche de comment je peux être utile aux autres. Et on va voir que si on veut vraiment maintenir notre éthique pure, c'est-à-dire ne pas laisser tomber les actes négatifs de manière pure, on est obligé de... On est obligé d'intégrer les actes positifs, c'est-à-dire la compassion. Pas seulement de ne pas nuire aux autres, mais intégrer le souhait de libérer les autres. Je vous prends un exemple. Quand on est amené à... Voilà, si par exemple on veut éviter le bavardage futile, mais qu'en face de nous, on a une personne en fait qui... Chez cette personne-là, on sent un malaise, le besoin de parler, le besoin d'échanger, le besoin de... Voilà, cette personne, elle se sent seule, ou elle a besoin de compagnie, etc. Eh bien, ça peut nous arriver, en fait, justement, ça peut être très habile de parler de la pluie et du beau temps pour engager, justement, un dialogue, pour engager une proximité, etc. Et là, pour le coup, c'est plus considéré comme du bavardage futile. Parce que c'est la compassion qui prend le relais. Les actes positifs, le karma positif qui prend le relais. Si par exemple on a la discipline de ne pas mentir, on voit bien que si on veut vraiment tenir ce jeu, vœu jusqu'au bout, ça va être compliqué si on veut en même temps être bénéfique aux êtres. Donc la seule façon de tenir ce vœu, c'est de placer d'abord l'intention d'être bénéfique aux êtres. Parce qu'à ce moment-là, on pourra garder ce vœu, c'est-à-dire je ne mente pas pour tromper, mais je peux mentir pour protéger. Voilà, il peut arriver des situations là où je mens pour le bien de l'autre, pour lui éviter du mal. Et là, du coup, l'éthique devient souple et donc applicable. Si elle reste dogmatique, en fait, eh ben, on va se planter. Et d'ailleurs, l'éthique est... On va de toute façon se planter. Il va y avoir des moments où on se plante et ça fait partie du chemin. On essaye, on tente et puis ensuite on rectifie. Et puis dans le dharma, il n'y a pas de place pour la culpabilité. C'est si on s'est planté, ben justement, c'est l'occasion de le voir, de le regretter, de voir comment on pourrait faire autrement et puis de renoncer à tel type de comportement, etc., de clarifier. Dans le dharma, on dit que la culpabilité, c'est quelque chose dont il faut vraiment... Il n'y a aucun point positif à la culpabilité. Si on veut vraiment, si on aspire à l'éveil, ben c'est qu'on reconnaît qu'on n'est pas parfait, qu'on n'a pas fait le chemin, qu'on est en train de le faire, qu'on est en chemin, et donc du coup, bah, c'est en faisant des erreurs aussi qu'on apprend. Bien sûr, quand on fait une erreur, on les reconnaît, on les regrette, mais ensuite, on passe à autre chose, quoi. On avance. Voilà, bah, je vais m'arrêter là. Et comme ça, bah, voilà, on a un petit peu de temps pour des questions, si vous voulez.
Ce serait possible d'enregistrer, ça je vais.
Enregistrer? Non, pas du tout.
Ah oui, demain, parce que la prochaine fois, j'enregistrerai.
Ok, mais là, moi j'enregistre systématiquement dans les chelines
Ah oui,
parce qu'en fait,
d'accord.
ensuite je les mets sur le site. Enfin, j'en mets
Ah
un.
oui, t'as bien.
J'en mets un sur le site. Celui où j'ai pas dit trop de bêtises.
T'en trouves un?
Parce que, en fait, c'est le Belfort, c'est le troisième sur la série. Alors, le premier, c'est Épinal, je me chauffe. Et là, pff, alors, en général, je ne le garde pas celui-là. C'est le coup d'essai, quoi. Alors, j'ai mes cobayes, hein, ils sont sympas, ils sont vachement indulgents.
C'est du tout venant,
ben, en
c'est un
fait,
peu mélangé.
C'est du tout venant. Les participants ou
Non, mais ce que
l'enseignant?
tu dis.
Ben, en fait, alors, je vais te dire comment je procède. Aujourd'hui, quand par exemple, je me dis, je vais. Déjà, quand je choisis le thème, je choisis souvent un thème. C'est un peu égoïste de ma part, mais je choisis un thème sur des trucs que justement j'ai un peu de mal parce que ça m'oblige à réviser. Ça me stimule pour, tu vois, replonger dans ce truc-là. Tiens, et là, pour le karma, c'est un peu ça. C'est pas facile le karma, je trouve. Bien sûr, on a tous les enseignements, on va dire les bases, voilà, intention vertueuse, conduit à acte vertueux. Ok. Mais après, quand on rentre dans le vif du sujet, c'est compliqué. Je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion, j'avais envie d'en parler. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème-là. Et puis ensuite, je vais écouter des enseignements, et puis je vais prendre des notes, et puis, silence. Parfois, même quand l'enseignement plaît, je fais du copier-coller, etc. Mais après, c'est vrai que moi, j'aime bien, quand je commence à parler, Bah, selon les gens qui sont là, je vois que je dis pas la même chose. Je sais pas pourquoi. C'est, enfin, je dans ce que je ressens, je pars sur un truc et puis parfois j'ai vachement développé un point alors que avec un autre groupe, je vais passer à autre chose. Et donc du coup, je peux pas malgré mes petites notes là qui sont là pour me rassurer, bah, finalement, je peux pas sans arrêt les regarder quoi. Voilà, c'est comme ça que je fais. Et donc c'est vrai que ça donne des enseignements finalement qui sont jamais toujours les mêmes. Bon, après, si j'ai une blague et qu'elle marche, ah bah j'épuise le filon, hein. Je la ressors jusqu'à ce que bah, je me rende compte que tout le monde la connaît. Ouais, bon, c'est bon, je vais... Et encore, hein, je mets du temps à m'en rendre compte. Ah, j'ai déjà sorti celle-là. Mais tu vois, ça se passe comme ça. Et puis à la fin du mois, je dois en mettre un en ligne. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui viennent. Alors, soit ils ratent les enseignements et puis ils aiment bien les écouter ensuite. Soit, bah, en fait, ils sont trop loin et donc, du coup, bah, ils aiment bien les écouter. Donc, on a gardé. Voilà, depuis longtemps, je prends un enseignement qui, voilà, qui m'a plu le plus et puis je le mets sur le site. Voilà.
Moi, si j'ai bien compris, pour vivre de façon harmonieuse,
ouais.
Il faut vivre inconditionnellement.
Et c'est-à-dire inconditionnellement
tu... Ben, qu'il n'y ait pas de conditions, qu'il n'y ait pas d'attachement.
Ah, ça... alors, ça c'est le fruit, ça c'est l'aboutissement.
Oui.
C'est-à-dire si effectivement on veut s'éveiller, oui. Enfin, c'est pas si on veut s'éveiller, c'est l'éveil, quand on est éveillé, on est libre des conditionnements, on est totalement libre des conditionnements. Oui. Donc, nous, si on veut vivre en harmonie, mmh. Eh ben ouais, il faut se libérer petit à petit de nos conditionnements. Ouais. Enfin, oui, t'as tout à fait, raison.
C'est ce que j'ai...
Oui, t'as tout à fait raison. Ouais. Mais après, on ne sera libre que quand on sera au bout du chemin. Ouais.
Mais on peut l'être partiellement ou de temps en temps.
Et on le voit bien, hein. Enfin, dans la vie de tous les jours, je pense que chacun, on voit qu'il y a des trucs sur lesquels on arrive à travailler. On voit bien que bah, voilà, on voudrait changer ce tempérament, cette façon de fonctionner. Et puis il y a des choses qu'on ne voit pas en fait. Il y a des choses qui sont plus dures à travailler parce que tout simplement, c'est des conditionnements qui sont très profonds.
On les occulte.
On les occulte. Mais. C'est pas grave parce que au bout plus on va travailler sur notre esprit, plus au bout d'un moment on va les voir ces choses-là. Même si on n'est pas capable de travailler dessus, déjà rien que le fait de les voir, d'en prendre conscience, c'est déjà c'est 50% du chemin qui est fait. Mais voilà, il y a des conditionnements qui sont hyper profonds. Hein. Par exemple, je sais pas si c'est avec vous que je parlais du fait de s'inquiéter. Le fait de s'inquiéter, c'est quelque chose qui est très présent chez beaucoup de personnes. De s'angoisser pour des petits trucs. Moi, je vois bien, j'ai cette tendance-là. Bah, le fait de le voir, je vois bien que bon, c'est déjà pas mal, parce que je sais que ça sert à rien de m'inquiéter. Mais n'empêche que je vois bien, je m'inquiète quand même. C'est pas grave. Mais c'est vrai que l'éveil, enfin, le fruit, c'est que quelque part, on sera totalement libre de ça. Et donc, c'est un peu la promesse, et c'est ça aussi qui est inspirant, enfin qui peut nous inspirer.
Est-ce que l'état de Bouddha, on peut dire que c'est un peu dans la spontanéité comme un enfant, quelque part, il y a des similitudes.
Non. D'une certaine manière. Non, c'est pas de ça qu'on parle, parce que. Je parle d'une activité qui est spontanée, mais qui est totalement, qui comprend pleinement la nature des phénomènes.
Oui, c'est réfléchi.
Plus que ça, c'est-à-dire c'est après, c'est au-delà de la réflexion, c'est-à-dire on a vraiment compris. C'est pour ça qu'on ne peut pas le comprendre avec l'intellect. Et c'est pour ça que c'est pas comme la spontanéité d'un enfant. C'est pas de cette spontanéité. C'est que, en fait, on voit les choses telles qu'elles sont, et on ne peut plus ne pas les voir telles qu'elles sont. Il y a plus, on se fait plus aucune illusion par rapport à ce que les choses elles sont telles qu'elles sont. Elles sont ni bien, les apparences ne nous veulent ni du bien ni du mal. Ça, je trouve que cette question elle est super intéressante. Parce que un jour, il y a une semaine, j'étais chez des gens. Alors, c'était des amis. Eux, ils se connaissaient, mais moi, je ne les connaissais pas. Et donc, du coup, un moment dans la discussion, il y en a un qui dit, qui parle d'une expérience qu'il a vécue difficile quand il était jeune. Et il utilise l'expression « c'est comme si j'avais pris un coup de massue dans ma vie ». Métaphoriquement, hein. Et il y a un de ses amis qui lui dit « mais tu sais, un peu philosophique, quoi ». Il lui dit de manière philosophique « oui, mais tu sais, si on se prend des coups de massue dans la vie, c'est que quelque part, c'est bon pour nous ». Bon, il s'avançait sur un terrain. L'autre, en face, ça lui a pas parlé du tout. Et puis je voyais que les regards se tournaient vers moi du genre et le moine bouddhiste qu'est-ce qu'il en pense. Alors moi j'essayais de me faire tout petit parce que bon les gens je les connais, eux ils se connaissaient alors que moi en fait j'étais invité mais en fait voilà dans la circonstance et puis on se rencontrait pour la première fois donc du coup il y en a et puis à un moment donné il y a carrément une qui nous Et toi, notre ami bouddhiste, qu'est-ce que tu en penses ? Et bon, alors sur le coup, j'ai répondu un truc un peu bateau. Parce que, en fait, dans le contexte, ça ne s'y prêtait pas. Mais n'empêche que je trouvais que la question était vachement intéressante. Elle était intéressante. Dans le sens, est-ce que quand on se prend un coup de massue, c'est bon pour nous ? Alors, du point de vue bouddhiste, moi, ce que je comprends du bouddhisme, c'est que finalement, les apparences, elles nous veulent pas de mal. Enfin, c'est ça qu'on nous enseigne. Elles nous veulent pas de mal. Elles ne veulent pas non plus du bien. Les apparences, elles sont qu'elles sont. Elles n'ont pas d'intention particulière à notre égard. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont pures. Elles n'ont pas d'intention. Elles sont ce qu'elles sont. Et elles sont pures par nature parce qu'en fait, une apparence, elle naît de causes et de conditions. Des choses, voilà, quand on parle d'interdépendance, on parle du fait que les choses, elles apparaissent pas par elles-mêmes. Il y a tout, pas par hasard, pas par elles-mêmes. Il y a toujours plein de causes et de conditions qui font que ça apparaît. Nous, on a l'impression que ça apparaît par magie, mais en fait, c'est très juste. C'est très. Par contre, nous, comment on les vit, ça, c'est de notre sort. Les apparences, elles ne nous veulent pas de mal. Elles ne nous veulent pas de bien. Elles n'ont pas d'autre sens que le fait d'apparaître. Mais rien ne nous empêche, nous, de leur donner un sens. Et rien ne nous empêche peut-être aussi de, par exemple, si on vit quelque chose de négatif, eh ben, on va nous encourager à voir que même quelque chose de négatif, eh ben, comment on peut travailler sur notre esprit pour en tirer une leçon. Ou peut-être comment ça peut nous permettre de grandir. Comment ça peut nous permettre de... comment on peut en tirer quelque chose de positif, même dans le négatif. Et bon, j'ai pas parlé de ça, mais je trouvais ça intéressant de le voir comme ça. Pourquoi je vous parle de ça, moi ? On était parti de quoi ? On parlait de la spontanéité, oui. Et puis ensuite,
t'avais dit quoi ?
Ouais,
et
puis ensuite,
Alexandre. Ouais. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'enfant n'a pas encore construit, le jeune enfant, je parle, il n'a pas encore son ego, il n'a pas encore d'étiquette. Alors c'est vrai que l'état de Bouddha, c'est je dépasse l'ego, c'est-à-dire que je me retrouve de nouveau sans filtre, sans étiquette sur ce monde. C'est en ce sens-là où je voyais une similitude.
Ouais, et la Marie-Ange, elle avait dit sans réflexion. Ça demande beaucoup de réflexion. Et puis ensuite, ensuite, on va aller plus loin. Voilà, c'est là que je voulais en venir. C'est que nous, sur le chemin, on a besoin de réflexion. Ça fait partie du chemin. Mais l'aboutissement, c'est qu'à un moment donné, on ne se pose plus de questions sur les phénomènes, on les voit tels qu'ils sont. Aujourd'hui, on pense que tel phénomène, on y met l'étiquette, ça c'est agréable, ça c'est désagréable, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça devrait être, ça devrait pas être. On se pose beaucoup de questions, c'est parce qu'on ne les regarde pas pour ce qu'ils sont. Les phénomènes, ils n'ont rien demandé à personne. C'est nous qui leur collons les imputations, les étiquettes, c'est beau, c'est pas beau, c'est... Mais les phénomènes, ils sont ce qu'ils sont. Et un Bouddha les voit tels qu'ils sont. Et donc, du coup, n'a pas de réflexion par rapport aux phénomènes.
Et c'est pour ça qu'on parle d'activité spontanée. Parce qu'il n'est pas en réaction par rapport au phénomène. Ils sont vus tels qu'ils sont. Il n'y a pas d'idée préconçue à leur égard. Il n'y a même pas d'idée à leur égard. Ils sont ce qu'ils sont. Ils sont vus. Et là, on parle de compréhension. Alors, nous, tant qu'on n'en fait pas l'expérience de ça, ça nous paraît lointain. Mais déjà, en termes de libération, ce que j'aime dans cette idée-là, c'est la promesse que, à un moment donné, en fait, on va pouvoir agir. Le fruit, c'est que, en fait, on pourra être bienfaisant sans même passer par toutes les complications du mental. On peut aspirer à tout simplement être un vecteur d'éveil spontané. Voilà. Je sais pas si... Ouais. Moi, ça me touche. Parce que c'est fatigant aussi, peser le pour, le contre, etc. Et puis même souvent, on fait notre mieux, puis on voit qu'on se plante. Bon, ça fait partie du chemin, etc. Mais bon... C'est pas libéré de toutes nos idées préconçues, voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a pas de mal à réfléchir, hein. Même au contraire, c'est super qu'on ait on ait le mental. C'est un super outil pour concevoir, pour réfléchir, pour imaginer, pour créer, etc. Mais disons qu'on ne sait pas l'utiliser. Parfois, en fait, on se perd les pinceaux. Je suis en train de mélanger deux expressions. On se mélange les pinceaux et on se... Ouais, enfin, bref.
Il n'a pas la langue dans le même sabot, quoi.
On se perd les pédales. Ok, on va s'arrêter là. Et puis on va faire la dédicace. Que le mérite accompli ici même ébranle le tréfonds du samsara et que les êtres sortent de leur torpeur pour reconnaître la nature de l'esprit. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci.
Merci.
Merci.